18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Il ne s'agit pas d'un horizon lointain et incertain. Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche, peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril.
Le retour à une vie plus normale est en vue, peut-être dès la mi-avril. L'exécutif s'accroche à cet espoir pour demander aux Français de tenir.
Oui, d'ici là, il faudra encore affronter des semaines de gros temps, affirme le porte-parole du gouvernement. Sur le plan sanitaire, le virus continue, c'est vrai, de circuler très rapidement dans une vingtaine de départements.
Et en attendant la sortie de crise, l'Élysée réfléchit aux différents scénarios de réouverture des lieux publics. Réunion autour d'Emmanuel Macron, la question du pass sanitaire est sur la table.
Faut-il rendre la vaccination des personnels soignants obligatoires? Le débat est relancé, plusieurs voix le réclament.
PSA en pleine forme, le constructeur automobile affiche des bénéfices en hausse, plus 2 milliards d'euros. Les salariés vont recevoir une prime de 3 000 euros brut minimum.
La fin de Génération Identitaire, le Conseil des ministres acte la dissolution de ce groupe d'extrême droite pour incitation à la discrimination, la haine et la violence, a dit le ministre de l'Intérieur.
Un suspect mis en examen et écroué après la violente agression d'un photographe de l'Union de Reims samedi, il est toujours hospitalisé dans un état grave.
Le retour d'Astérix est d'un réalisateur que l'on connaît bien, Alain Chabat. Il reprend du service sur Netflix.
La bourse de Paris termine en hausse, plus 0,35% à 5 830 points.
La météo, Anissa Haddadi, bonsoir.
Bonsoir, Julien.
Le ciel se couvre demain, attention, ça change.
Oui, oui, le temps change, effectivement, je vous en parlais depuis le début de semaine. Ce jeudi sera synonyme de changement avec beaucoup plus de nuages et d'averses sur la moitié nord. Le printemps persiste encore dans le sud et les températures baissent bien, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
On va essayer d'y voir plus clair, d'autant que la lumière est au bout du tunnel, paraît-il. Il y a d'abord eu ce conseil de défense sanitaire ce matin, avec en toile de fond de possibles restrictions supplémentaires. Mais Gabriel Attal a voulu donner une raison d'espérer.
Oui, un retour à une vie plus normale est en vue, peut-être dès la mi-avril, a expliqué le porte-parole du gouvernement, Jean-Rémy Baudeau. C'est vrai qu'on a un peu du mal à y voir clair dans cette affaire. L'exécutif nous fixe un horizon au bout du tunnel, mais en même temps, il nous dit qu'il faut attendre des semaines de gros temps dans les jours et les semaines qui viennent. Donc,
en fait, le message principal, la seule certitude, c'est que la situation sanitaire, elle n'est pas bonne. Elle est même très disparate entre les régions. L'Île-de-France inquiète particulièrement. Les réa de la PHP sont au bord de la saturation. Même appréhension dans les Hauts-de-France. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus des 20 départements sous surveillance actuellement, l'exécutif a pointé une dizaine d'autres départements observés avec vigilance. Le confinement week-end reste une option sérieuse, mais ça n'est pas la seule, dit-on à l'Élysée, où on veut écarter l'idée au maximum, l'idée de ce confinement national ou de la fermeture des écoles. Voilà pour le bilan et voilà pour les dernières tendances. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas le porte-parole du gouvernement de vouloir donner quelques perspectives un peu plus réjouissantes, une sorte d'horizon.
Il ne s'agit pas d'un horizon lointain et incertain. Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche, peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril, auquel nous nous préparons. Et le président nous a demandé de présenter des dispositifs et des protocoles qui pourraient permettre de rouvrir prudemment, mais sûrement, le pays dans les prochains temps. La question qui est devant nous est donc la suivante. Alors que nous avons cet horizon en vue, par quel chemin l'atteignons-nous ?
Voilà, alors vous aurez quand même noté qu'on est loin du retour des jours heureux dont avait parlé Emmanuel Macron en avril l'année dernière. C'est plus prudent, mais l'idée, c'est de donner un cap.
Non, mais c'est vrai qu'il y a en plus ce soir, Jean-Rémy, une réunion à l'Élysée qui parle de sortie de crise.
Oui, rien de concret à en attendre pour l'instant, mais tous les ministères ont fait remonter les protocoles possibles pour la sortie de crise, la réouverture des restaurants, des musées, tout ce qui peut être imaginé. L'idée d'une application avec un QR code pour justifier d'un test récent ou d'un vaccin, un anti-Covid amélioré, pronostiqué un ministre. Emmanuel Macron, lui, avait refusé l'idée d'un passeport vaccinal. On parle désormais plutôt d'un pass sanitaire, vous aurez noté la nuance. Quoi qu'il en soit, il s'agit de réfléchir à effectivement reprendre une vie normale. Un conseiller le confie, ce soir, c'est un peu de la com. Voilà qui a le mérite d'être honnête. Encore une fois, il s'agit de montrer que le gouvernement regarde déjà au-delà de la période difficile qui est devant nous, une manière de donner un peu d'espoir. C'est aussi ça, faire de la politique.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1 sur le plan sanitaire. L'épidémie continue d'avancer, donc ni explosion ni augmentation exponentielle, mais une hausse continue. Près de 3600 malades sont actuellement en réanimation et on a encore déploré 301 décès hier.
Oui, et puis un secteur hospitalier qui reste sous tension dans certains départements ou régions, comme l'Île-de-France, où près de 80% des services de réanimation sont occupés par des malades Covid. D'autres départements commencent doucement mais sûrement à souffler un peu, comme la Moselle.
Ouais, le vaccin est donc la solution pour le gouvernement. Et à ce propos, plusieurs voix demandent à rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant. Un seul exemple, dans les hôpitaux de Paris, ils ne sont que 34% à s'être fait vacciner. Et pourtant, c'est le seul moyen d'éradiquer la maladie, défend le professeur François Chaste, pharmacien à l'assistance publique hôpitaux de Paris.
On vient à l'hôpital pour se faire enlever la vésicule biliaire et on va en réanimation avec la Covid. C'est pas tout à fait normal. Ce vaccin est efficace, il est bien toléré. Donc nous avons un devoir aujourd'hui, c'est non pas d'inciter, mais d'obliger tous les hospitaliers, tous les soignants, mais les médecins en ville aussi, bien sûr, à se faire vacciner parce que c'est le seul moyen de réduire, voire d'éradiquer la maladie en quelques mois.
François Chaste, interrogé donc par Victor Dolande. Et pour accélérer encore davantage la campagne de vaccination, eh bien les pompiers se disent maintenant prêts à vacciner la population dans leur caserne. Il y en a 6200 répartis sur l'ensemble du territoire. C'est ce que propose donc la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
Et puis il n'y aura pas de fête foraine à Chalon-sur-Saône ce week-end. La justice suspend l'arrêté du maire qui autorisait la manifestation malgré l'interdiction préfectorale.
Les bonnes nouvelles sont rares en ce moment. On va en profiter. Côté économie, le groupe PSA est en pleine forme malgré la crise que traverse le secteur automobile.
Le constructeur annonce 2 milliards d'euros de bénéfices. Le PDG du groupe a aussitôt expliqué que les salariés ne seraient pas oubliés. Ils vont recevoir une prime de 3 000 euros brut minimum. Tout va bien chez Peugeot. Et finalement, c'est tout sauf un hasard, Aurélien Fleureau.
Exactement, c'est le fruit d'une stratégie mise en place dès 2014 par le patron Carlos Tavares. Et obtenir une marge de 7% dans le contexte de 2020, c'est clairement remarquable. Toute l'entreprise est tournée vers la recherche de la rentabilité sur chaque voiture vendue plutôt que la course au volume. Il y a aussi eu une montée en gamme avec par exemple le spectaculaire succès de la Peugeot 3008. Pour y parvenir, il a fallu réduire la taille des usines ou alors optimiser les espaces, réduire aussi le nombre de salariés avec des ruptures conventionnelles collectives, pas de licenciement. C'est ça la recette Tavares, explique Franck Don, délégué CFTC de Stellantis.
Limiter au strict nécessaire, éviter les superflus, n'axer ses efforts que sur la rentabilité. C'est un véritable effort de guerre qu'a demandé la direction aux salariés. Maintenant, l'effort de guerre, je vais vous dire, il va falloir quand même que dans le temps, ça puisse s'estomper parce que nous ne pourrons pas tenir dans un climat social correct encore très longtemps.
Et dans ce contexte, eh bien, la prime d'intéressement de 3 000 euros minimum, c'est clairement la bonne surprise pour les salariés qui seront désormais attentifs aux synergies annoncées grâce à la fusion avec le groupe Fiat Chrysler. Près de 5 milliards d'euros, estime Carlos Tavares, mais sans fermeture d'usine, a-t-il promis.
Explication Aurélien Fleureau. C'était une promesse du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a donc dissous Génération Identitaire.
Oui, la décision a été actée en Conseil des ministres. Le décret a même été publié sur le compte Twitter du ministre Gérald Darmanin. Que reproche-t-on alors précisément, Justin Morin, à Génération Identitaire ?
Elle vient de s'être radicalisée ces derniers mois. L'élément déclencheur, c'est la dernière action anti-migrants dans les Pyrénées. C'était au début de l'année. Une trentaine de militants se sont regroupés pour traquer d'éventuels sans-papiers le long de la frontière espagnole. Slogan, uniforme, insigne, entraînement lors des universités d'été. Le ministère de l'Intérieur y voit des méthodes dignes d'une milice privée, un motif de dissolution au regard du code de sécurité intérieure. Dans le décret, on lit aussi que derrière le discours sur la préférence nationale, la lutte contre l'immigration illégale, se cache une idéologie xénophobe qui incite à la discrimination et à la haine raciale. Une idéologie influente dont se revendiquent certains acteurs de l'ultra-droite. Le nom de l'association se retrouve par exemple dans un dossier antiterroriste, celui d'un ancien militaire arrêté l'année dernière qui projetait de s'attaquer à des juifs. Il a été arrêté à Limoges et à son domicile. Les enquêteurs ont retrouvé un t-shirt siglé Génération Identitaire. Des arguments qui étaient attendus par Maître Pierre-Vincent Lambert, avocat du groupuscule.
C'est pas une surprise, mais tout ça est un peu grotesque. Nous expliquer qu'il y a une provocation à la haine parce que on dénonce l'immigration et qu'on dénonce ses conséquences. Bon, bah, il faut dissoudre effectivement une majorité de Français, il faut dissoudre le Rassemblement National. Voilà, ça prête moins à sourire, si vous voulez, cette dérive liberticide est beaucoup plus inquiétante. Donc on va saisir le Conseil d'État.
Place au combat juridique, désormais une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité est aussi envisagée pour contester la base juridique du décret.
Justin Morin du service Police-Justice d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal est donc, on part à Reims où un suspect a été mis en examen et écroué après l'agression d'un photographe.
Il est toujours à l'hôpital ce soir et son état est jugé critique selon le procureur qui a détaillé les éléments de l'enquête. Une attaque particulièrement violente, Guillaume Bier.
Oui, un déchaînement de violence qui a duré 57 secondes d'après les enregistrements des caméras de surveillance. Le photoreporter de l'Union de Reims a été violemment frappé à coups de poing et avec son propre appareil. Alors qu'il venait de photographier de loin une trentaine de personnes en train de préparer une rixe en plein après-midi. C'est pour cette raison qu'il a été attaqué, selon le procureur de Reims, Mathieu Bourrette.
Il est probable que le groupe d'individus qu'il avait repéré voulait non seulement s'en prendre à lui, mais également récupérer la mémoire de son appareil photographique et les clichés qui avaient pu être pris. L'intervention journalistique à déranger ces préparatifs, conduisant au moins un individu à s'en prendre très violemment à lui et les autres à appréhender son appareil ou à le laisser au sol sans prévenir les secours.
Le principal agresseur présumé a donc été identifié et arrêté. C'est un homme de 21 ans, déjà condamné 8 fois pour cambriolage, trafic de drogue ou violence en réunion. Il n'a pas dit un mot en garde à vue et a même refusé de sortir de sa cellule d'après le procureur, qui précise qu'un second suspect a été identifié mais n'a pas encore été interpellé par les policiers.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. Au Nigeria, les 279 lycéennes enlevées vendredi dernier dans un pensionnat vont retrouver leur famille. Les adolescentes ont été libérées après négociation entre les autorités et leurs ravisseurs.
Des nouvelles également d'Alexei Navalny. L'opposant russe assure qu'il va bien.
En tout cas, c'est ce qu'il a dit via une photo publiée sur Instagram. Alexei Navalny est détenu dans une prison de la région de Vladimir, à l'est de Moscou. Il attend toujours de savoir s'il sera transféré vers une colonie pénitentiaire. La justice russe doit examiner son appel dans les prochains jours.
La région de Vladimir, oui, pour une prison,
j'y ai pensé,
c'est voilà. Assez cocasse.
Surtout quand on est le principal opposant à Vladimir Poutine. Le football retourne en France. La 28e journée de Ligue 1 ce soir tient des oppositions. Il va y en avoir avec notamment Lyon-Rennes à 19h et Lille-Marseille à 21h.
Le retour du Gaulois le plus célèbre du monde, Astérix évidemment, revient sur les écrans, mais pas n'importe lesquels. Il va avoir droit à sa série sur Netflix.
Oui, enfin, il va quand même falloir être patient. La sortie n'est pas prévue avant 2023, mais c'est vrai qu'un dessin animé en 3D de l'irréductible Gaulois, ça ne se refuse pas. Et d'ailleurs, Diane Chenouda, le réalisateur, n'est autre qu'Alain Chabat.
Et oui, c'est le réalisateur de Mission Cléopâtre au cinéma qui avait cartonné avec 14 millions d'entrées, qui va donc signer cette série pour Netflix. Alain Chabat va adapter un des albums cultes d'Astérix, Le Combat des Chefs. C'est la première fois qu'il se frotte au dessin animé, mais que ce soit Alain Chabat aux manettes, eh bien cela réjouit Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, le célèbre auteur d'Astérix.
Je peux vous dire, ce qu'à la radio on ne voit pas, c'est mon sourire. Parce que c'est, je pense, la meilleure nouvelle de l'année. Je crois que de tous les gens qui se sont emparés, intéressés à Astérix, Alain Chabat est indéniablement celui qui a le mieux réussi l'exercice. C'est-à-dire qu'il a réussi à transgresser les codes mis en place tout en restant fidèle. C'est une espèce d'alchimie incroyable. Et avec Mission Cléopâtre, c'est précisément ce qu'il a fait. Alain, il a tout compris à l'esprit de mon père. Il a tout compris. Je peux dire que c'est quand même aussi une chance pour Astérix d'avoir accès à Netflix, parce que toute la planète aujourd'hui a accès à Netflix, et peut-être des gens qui ne connaissent pas Astérix auront à ce moment-là l'opportunité de découvrir le personnage. Donc je trouve que c'est vraiment une très très jolie nouvelle.
Et cela permettra peut-être en effet à Astérix de conquérir enfin l'Amérique.
Eh ben, Astérix aux États-Unis, non ? Ça pourrait être quelque chose comme ça. Pourquoi pas ?
Si, ça va fonctionner, c'est sûr, c'est certain, surtout avec Chabat. Merci.
On ne résiste
Christophe.
Pas à Astérix.
C'était le journal de Christophe Lamarre. On vous retrouve évidemment pour le rappel des titres, 18h30, et puis le journal à 19h. La météo avec Anissa qui est toujours avec nous et qui nous annonce un temps qui va changer un peu demain. Hein. C'est fini le printemps.
Ouais, en tout cas sur la moitié nord, Julien, c'est fini effectivement. Nous avons une perturbation. Alors elle était déjà présente aujourd'hui sur le nord-ouest, hein, sur la Bretagne et la Normandie. Elle va avancer cette nuit, cette perturbation, et donc demain matin, du Poitou jusqu'à la Lorraine, en passant par la région parisienne, nous aurons un ciel plus couvert, plus gris, et surtout des averses tout au long de la journée. Dans l'après-midi, cette perturbation pluvieuse va continuer d'avancer, elle va toucher l'Auvergne, la Bourgogne et l'Alsace. D'ailleurs, c'est en Alsace que les pluies seront les plus fortes, avec des coups de tonnerre attendus même demain après-midi. Au bord de la Manche, sur le nord-ouest, là, bah, nous avons toujours un temps assez couvert avec quelques petites ondées également. Et puis sur la moitié sud, au sud d'une ligne allant de La Rochelle à Lyon, eh bien là, nous avons un temps plutôt ensoleillé après la dissipation des brouillards matinaux. Le soleil va finir par s'imposer. Les températures, ça y est, Julien, hein, je vous en parlais, ça y est, elles commencent à baisser demain avec 3 à 7 degrés en général le matin. 7 à 12 seulement demain après-midi, 7 à Dunkerque, 8 à Paris, 8 à Lille et 12 à Paris. Aujourd'hui, on avait 18 et 13 à 18 degrés sur la moitié sud.
Bon, c'est pas non plus le grand froid, ça va, on va...
On perd 6 degrés entre aujourd'hui et demain.
6 degrés.
Et puis ça va, ouais, ça va encore baisser.
Et ça va continuer.
Hein. Ouais, ouais, ce week-end, il va faire vraiment très frais.
Bon, chaque chose en son temps.
Voilà.
Hein, vous nous direz ça demain. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo, 18h30.
Europe 1, écoutez le monde changer.